Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai des rapports assez simples avec la religion, puisqu'ils sont totalement inexistants. Mes parents ont baigné dans un univers catholique assez prononcé, le nord du Finistère étant la dernière enclave du Vatican en France. Ils n'ont par contre pas jugé bon de prolonger l'expérience et m'ont donc élevé dans l'impiété la plus totale, me transmettant au passage un athéisme des plus affirmés. Ceci étant dit, comme tout ce qu'on ne comprend pas, je reste fasciné, moi qui ne crois pas en grand-chose, par la propension que peuvent avoir les autres à croire à des forces plus grandes qu'eux. Et si d'aventure ils arrivent à faire glisser leur foi millénaire dans les usages numériques que charrie notre époque, ma curiosité n'en est que plus vive. C'est exactement ce que nous propose le reportage que vous allez entendre tout de suite. Il est signé Chloé Vibeau, réalisé par Vincent Hiver, il s'appelle Les Cathos Connectés, et je crois que le titre suffit à vous dire dans quelle direction va nous emmener notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
J'arrive comme 33 tonnes, chauffeur complètement bourré. Au nom du tout puissant man, je vais tout envoyer bouler. Dieu c'est le boss, comme te le disent mes apôtres d'amis.
Dimanche 20 janvier, le pape François a invité les jeunes catholiques à télécharger l'application Click to Pray, littéralement cliquer pour prier, application qui permet aux utilisateurs de partager leurs prières en ligne avant les journées mondiales de la jeunesse à Panama. Selon le pape, la toile peut nous aider à prier en communauté, à prier ensemble. Sous les articles évoquant cette information, les commentaires étaient moqueurs. Tu as le nouvel iPray ? À quand la confession en FaceTime ? Même la religion se met au 2.0. Je comprends. Pour moi, l'église, c'était ma grand-mère, les prières qui ne changent pas, les chants toujours les mêmes, église poussière et tradition. A-t-on vraiment besoin de tout digitaliser ? Ce n'est pas parce qu'il est possible de moderniser des traditions que l'on doit forcément le faire. Et puis, je me suis souvenue d'une fois où j'étais en randonnée au Canada avec des copines, il y a quelques années. C'était l'hiver, on marchait depuis des heures en raquette dans la neige, on n'en voyait pas le bout, et ma copine Nathalie m'avait dit « On peut faire les prières du soir si tu veux, j'ai une appli ». J'avais pas trop compris de quoi elle parlait, mais j'avais trouvé ça joli, cette idée d'emmener avec soi ses prières et de les faire en pleine montagne, une nuit d'hiver au Canada, même si c'était sur son téléphone. Finalement, lorsqu'on est très croyant, la technologie ne pourrait-elle pas être un outil de la religion ? Serait-ce forcément contradictoire ? Quand j'ai posé ces questions, une amie m'a très justement fait remarquer que dans les années 80, on avait déjà commencé à diffuser à la télévision la messe tous les dimanches midi. Que la religion devait évoluer avec son temps. À l'heure du tout connecté, va-t-on recevoir des notifications, des likes, des messages virtuels d'une communauté religieuse ? Peut-on vraiment prier sur son téléphone ? Quel intérêt a l'église de se digitaliser ? J'ai rappelé mon amie Nathalie pour lui parler de l'application de prière dans les montagnes. Elle a rigolé et m'a dit que c'était avant tout une application pour suivre les textes à la messe, qu'il en existait plein. Du coup, je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'elle utilisait, en commençant par les applications de messe.
Moi, j'utilise vraiment mon portable, enfin, j'ai pas du tout... je pense que parfois, il y a certaines personnes, notamment les personnes plus âgées, qui te regardent un tout petit peu chelou, enfin... Mais je m'en fiche complètement, en fait, parce que c'est un instrument de prière, en fait. Enfin, c'est vraiment un instrument, quoi. Déjà, il y a des applications, différentes applications où tu peux suivre les textes. C'est sympa quand t'as pas guetté un mot ou t'as oublié, t'as pas compris un truc, tu peux le relire. Voilà, moi, c'est ça ce que je fais. Et puis, parfois aussi, genre, avant la communion, je regarde des textes qui aident à se préparer à communier. Enfin, c'est des textes sur Internet. Alors, moi, j'utilise l'appli Liturgie, qui te permet d'avoir, dans toutes les langues, l'office des lectures du matin, l'office des laudes. Tu vois, il y a les lectures, les laudes, tiers, sexte, nonne, vêpres et compli. Et puis, et en plus, t'as les lectures de la messe, si tu veux y aller, de chaque jour avec le saint. Ça me permet aussi d'aller relire des textes, tu vois, qui m'ont trop touchée ou à une messe ou qui m'ont inspirée. Et ben, du coup, j'y retourne. Enfin, je me note la date et j'y retourne pour me les noter ou avoir ces applications. Ça, en vrai, c'est ouf. C'est trop cool quand t'es jeune d'avoir des applis parce que t'as pas toujours le psautier avec toi. Le psautier, ça fait cette taille-là. Enfin, c'est assez énorme. Ça pèse super lourd, franchement. Donc, c'est cool dans le métro d'avoir son appli. Si, sinon, j'ai une autre appli, mais là, je l'ai juste enlevée parce que j'avais plus de place. Sinon, j'ai une appli qui est sur le chapelet. C'est en fait quand j'ai pas le temps. Bah, tu vois, encore une fois, on parlait de se trimballer des trucs physiques, genre un livre ou un chapelet, même si c'est un petit peu physique, c'est pas très gros, mais voilà. Et ben, y a une appli qui. Tu mets tes écouteurs et en fait, ils récitent le chapelet, tu le récites avec eux. Donc, c'est trop cool quand t'as 20 minutes de métro. Ça t'évite d'avoir à te trimballer ton chapelet. Ça, c'est cool. Ça a changé ma façon de prier dans le sens où ça, bah, je priais plus, quoi. Parce que je l'avais sous la main. Surtout que je me le suis mis, tu vois, en bas de ma page de mon iPhone, donc je le vois direct. Enfin, genre, la prière, pour moi, c'est pas du tout sacré. Je suis pas du tout quelqu'un de religieux ou dans le sacramentel et tout. Moi, enfin, Dieu, c'est quand même un pote, donc je lui parle, voilà, je fais ma prière... On rigole. Non, mais genre, vraiment, la prière, ça se fait dans le métro, ici, n'importe où, pendant les randonnées, tu vois. Quand je suis en randonnée, ou genre là, j'étais en Patagonie, et ben, je sortais mon portable, et au fin fond de la Patagonie, ambiance à Ushuaia, quoi. Enfin, je faisais ma petite laude avec mon appli Liturgie. Ça, c'est cool. Comme on peut mettre aussi en espagnol, l'appli. Ben, tu peux prier avec les voisins chiliens ou argentins, quoi. C'est marrant. C'est pour ça que, ouais, voilà, je le mettre entre mes textos et Internet, ça ne me dérange pas. Et d'avoir, à côté de mes conversations WhatsApp, de copains et tout, il y a aussi Radar Kato.
Radar Kato, ex Diola Tchatch, c'est un groupe WhatsApp dont elle m'avait déjà parlé. Un jour où j'attendais une réponse pour un travail, elle avait posté sur le groupe un message demandant à ses copines de prier pour moi.
En fait, on l'a créé avec des amis, une qui habite à Lille, tu vois. Une autre qui est... à l'époque, Charlotte, donc elle était à Lyon. Enfin, on n'était pas toutes au même endroit, mais ça permettait de prier pour les mêmes choses, de se le dire, tu vois. Et en fait, on se fait tourner tous nos bons plans, ou genre quand on a quelqu'un qui va pas bien proche de nous, on se fait des... On prie les unes pour les autres, pour la personne, tu vois. Ou genre quand on a des questions... On a envie de faire une retraite, on se pose des questions. Vous connaîtriez pas un monastère sympa et tout, pas loin de Paris ou... Voilà, on se conseille des bouquins aussi. Et puis on prie pour nos amis qui vont pas bien. On se fait des neuvaines de chapelet. Et en gros, chaque jour, à telle heure, on prie pour le boss d'un tel avec qui elle a trop de mal. Ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, des trucs qu'on nous a confiés.
Voilà. En fait, tu fais un cercle de prière digitale, quoi.
Ouais, c'est ça. Oh là là, l'angoisse absolue. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est... Bah, c'est... Voilà, c'est avec la... On évolue avec nos moyens technologiques, tu vois. Je pense, parce que regarde, même mon père, il s'y met. Papa, il est né en 1950. Je pense que c'est une évolution de nos pratiques, tu vois.
Pour Nathalie... Il n'y a donc rien de contradictoire à exercer sa religion avec tous les outils à sa disposition, son téléphone en l'occurrence. Ce qui m'a intéressée avec le groupe Radar Kato, c'est qu'il montrait que Nathalie et ses copines utilisaient les moyens qu'on leur proposait, mais développaient en plus leur propre communauté virtuelle pour partager leur religion. Nathalie m'a mise en contact avec son amie Charlotte, membre fondateur de Radar Kato et grande consommatrice d'applications et de groupes virtuels divers pour exercer sa foi, à tout moment et en tous endroits.
En fait, l'enjeu, c'est d'avoir une foi d'adulte, et du coup, ça se fait à tout moment, par exemple le matin. Je prie beaucoup dans le métro avec l'application AELF, donc ça, c'est comme ça je peux prier les laudes et voir les textes de la messe. Et puis, je note régulièrement les homélies ou au moins les éléments qui sont notés, enfin qui m'ont marqué sur l'application Notes. Et ensuite, souvent, bah, je la repartage sur le groupe des Radar Kato ou sur d'autres groupes WhatsApp que j'ai avec des amis scouts ou des trucs comme ça. Et donc, pour lesquels on se partage des intentions de prière ou des éléments qui nous ont nourris. Et voilà, juste à titre indicatif, quoi.
Point lexique Kato. Les homélies, plus connues sous le nom de sermons, sont les allocutions du prêtre pendant la messe.
Après, en effet, il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés qui sont dans le groupe WhatsApp. Je sais pourtant, quand même, qui correspond à quel numéro. Et en même temps, je sais qu'il y a une intimité que je partage avec eux. Et il y a une fois où j'ai rencontré une fille après 2 mois sur le groupe WhatsApp, je l'avais jamais vue avant. Et en fait, ça permet aussi d'avoir des discussions où on rentre dans le dur tout de suite. On va pas parler du futile, on parle profond. Et ça, c'est nourrissant et ça permet de faire vraiment communauté. Ensuite, je fonctionne pas mal par email. Je suis abonnée à plusieurs. Truc, il y a déjà Prixm, je sais pas si tu connais. Donc Prixm, c'est génial, c'est une newsletter. Et en fait, c'est en fonction de l'actualité, il y a un groupe de jeunes et un dominicain du Caire qui écrivent ensemble une newsletter. Et c'est sur un ton hyper actuel. Ça parle. En fait, ça s'inspire d'éléments culturels et d'actualité. Et hop, il y a une comparaison avec des textes où ça explique des éléments des textes, des rapprochements, etc. Parfois, je sais plus quand, c'était sur David, le nom de David, avec la descendance de David pour Jésus, et c'était appuyé sur David Guetta, son fonctionnement, ses musiques, etc. Donc c'est assez intéressant. Il y a Prixm, il y a aussi. J'aime beaucoup les Dominicains, donc je me nourris pas mal avec ce qu'ils proposent. Et donc il y a Théodome, ils ont fait un fonctionnement un peu comme les écoles dans Harry Potter. Donc on est dans un certain collège, donc moi je suis ensuite Catherine de Sienne, en fait ça sert à rien, c'est juste pour le kiff. Et en fait, donc, ils font des micro-séries. Chaque année, il y a une série de 5 ou 6 épisodes, enfin, je ne sais pas comment dire. Et en fait, c'est sur des thèmes. Et donc là, par exemple, juste avant l'Avent, ben, c'était intéressant de relire les textes de l'Apocalypse, puisqu'on allait les étudier pendant l'Avent à la messe. Et du coup, j'ai revu une série, une saison qui a été faite il y a 2 ans, je crois, où ils expliquent toute l'Apocalypse en petites vidéos. C'est des formats de 6-7 minutes. C'est assez pédagogue et vraiment marrant. Il y a Hosanna aussi. C'est des communautés priantes, des communautés virtuelles de prière. Donc, s'il y a une neuvaine qui nous intéresse ou si on veut lancer une neuvaine pour quelqu'un.
Point lexique Kato numéro 2. Une neuvaine est une prière à la même intention adressée 9 jours de suite ou 9 semaines de suite.
On crée un compte et puis un peu le même fonctionnement qu'une cagnotte litchi ou que les pétitions sur change.org, eh bien, on peut s'allier un peu à la cause. Et donc, on clique sur un truc genre « je prie ». Et du coup, on s'engage à prier avec la communauté priante. Il faut consentir au réel. Je suis une chrétienne du 21e siècle avec des enjeux sociétaux et des outils numériques qui me sont proposés et qui facilitent en fait, la communauté. Et du coup, ça nous permet de faire mouvement au sein de l'Église. Ça nous réunit par la prière. C'est juste un outil. Plutôt que de se déplacer, parce qu'on a tous des rythmes de vie à 200 à l'heure, eh bien, on fait notre petit menu pour notre emploi du temps, en tout cas. En tout cas, on s'engage juste à prier et on le fait quand on veut, ce qui peut être moins contraignant du coup qu'un groupe de prière tous les mardis soirs.
Ici, Charlotte soulève le concept de communauté. Ces applications facilitent la prière, mais incitent dans le même temps à faire partie de la communauté catholique, sans forcément se déplacer à un groupe de prière ou à l'église. Pour Charlotte, ces deux aspects sont importants. La communauté l'enrichit spirituellement, les prières dans son téléphone l'aident à tenir son emploi du temps surbooké.
Je pense que sans nos temps de prière, on ne tient pas le rythme à 1000 à l'heure. Moi, par exemple, je suis investie dans une association qui représente, en termes de travail, un bon tiers-temps. Tous les soirs, j'ai des réunions parce que j'ai une équipe à gérer. Il y a 40 personnes, en gros, à gérer en dessous de moi. Mais à côté de ça, j'ai un métier temps plein, la journée. Et en fait, si j'ai pas mon temps de l'aude le matin, mon temps de prière, ma messe le midi, etc., j'ai pas le cœur et l'esprit disposés à être une machine pendant mon temps de travail et à faire de mon mieux, à optimiser tout le temps que j'ai à disposition pour mon travail et être loyale à mon employeur et faire mon taf de mon mieux. Et ensuite, je suis pas disposée non plus à accompagner chacune de mes équipières, chacune des personnes dont je suis responsable. Et du coup, prendre ces temps de prière me permet d'être disposée. Mais en même temps, je me rends compte aussi d'une faiblesse, c'est que comme je peux le faire à tout endroit, vu que j'ai tout sur mon téléphone, parfois la qualité est un peu abîmée. Parce que, par exemple, matin, je me suis réveillée, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Ben, j'ai pas pris mon temps de prière chez moi, je l'ai pris dans le métro. Ben, c'est pas la même qualité. Mais ça me permet quand même d'avoir cette souplesse. C'est bête, mais il faut vraiment parfois... Enfin, si je sens que, par exemple, je suis sous pression et que j'ai pas mal de taf et que je m'absente quand même entre midi et deux pour aller à la messe et que du coup, je sors mon téléphone pour avoir les textes sur l'appli, eh ben, il y a le petit combat de... Allez, faut que je me mette en mode avion parce que sinon, je vais être dérangée par des notifs. Alors que, en fait, ça m'arrangerait bien d'être au courant live de ce qui se passe au travail ou dans ma vie perso. Donc ça représente aussi... Enfin, c'est un outil qu'il faut bien utiliser parce qu'il peut être dangereux. Je pourrais glisser dans une autre utilisation. Le matin, idem, quand je suis dans le métro, une fois que je suis au travail, je travaille toute la journée, je ne vais pas sortir mon téléphone pour tchatcher avec des amis. Du coup, ça veut dire que quand je prends sur mon temps de transport un temps de prière, ça veut dire que je ne communique pas avec des amis qui m'ont sollicité ou que j'ai envie de solliciter. Et il faut que je me protège en mettant mon téléphone en mode avion. Donc ça, c'est difficile. Si on connaît les bonnes applis, ça aide. Par exemple, les Dominicains ont plusieurs applications. Il y avait notamment aussi Avant dans la ville qui faisait là, où c'est une retraite chez soi. Donc tous les jours, on reçoit un mail avec des textes, de quoi écouter, prier les offices, etc. C'est assez complet. Mais il y a plein de congrégations religieuses qui ont des applications. Enfin, en fait, le rôle d'une congrégation religieuse, elle est de prier pour le monde. C'est nos petites centrales nucléaires. S'il n'y avait pas les congrégations religieuses, il n'y aurait pas de lumière. Et si on veut garder la lumière, il faut qu'on ait de plus en plus de religieux. Donc, je pense qu'il y a aussi un moyen... Enfin, il y a un objectif missionnaire à travers ces applications et il y a un objectif peut-être de proximité pour un objectif secondaire de recrutement, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que oui, ce sont les congrégations qui les développent. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'argent aussi, de dons, etc. Parce que ça coûte une fortune quand même, ces trucs. Et si l'Église veut dialoguer avec nous, il faut qu'elle se mette à dialoguer avec nos langages. Donc oui, je pense que c'est important que l'Église soit bien à jour. Et je trouve qu'elle l'est. Elle met les moyens et humblement, elle se remet en question régulièrement. Donc c'est bien, ils se mettent à jour.
Ainsi, l'Église cherche à parler aux jeunes avec leur langage, via leurs outils. Comme le dit Charlotte, cela fédère et sert certainement un but prochain de recruter de nouveaux prêtres, de montrer que l'Église est moderne, ancrée dans son temps. Alors, qui développe ces sites et ces applications? Est-ce à l'initiative de l'Église ou l'initiative personnelle de catholiques engagés? J'ai contacté Thomas Delenda, fondateur de Hosanna, dont m'a parlé Charlotte. Hosanna se présente comme un réseau social de prière. Ce réseau est constitué de communautés priantes où les inscrits s'échangent des intentions de prière, mais aussi des textes, méditations ou événements récurrents de prière. Ici, pas de photo de profil, on accole à son pseudo un symbole chrétien comme une colombe, une Bible ou l'image d'un saint auquel on s'identifie.
Hosanna, c'est donc un réseau social de prière qui permet à chacun de créer et partager des communautés de prière autour de propositions spirituelles. Donc, c'est-à-dire que toute personne peut créer une communauté qui va proposer un contenu spirituel. Donc, par exemple, recevoir tous les jours l'évangile du jour avec un commentaire, ou bien recevoir tous les jours une méditation sur la vie d'un saint. Et l'idée est venue, parce qu'en fait, moi, à l'origine, je travaillais pour Aletheia, qui est un média chrétien en ligne. Et puis, parallèlement, je me suis impliqué bénévolement pour la Fondation Espérance Banlieue, pour laquelle j'ai proposé de produire une série de films. Et j'ai utilisé une plateforme de crowdfunding. Je me suis dit, bah tiens, le crowdfunding permet à n'importe qui de présenter un projet sur une page pour demander de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un site qui permettrait de présenter sur une page une intention pour demander des prières? Donc le crowdpraying. Donc on peut laisser une intention de prière courte, de 190 caractères, je crois, qui dure 48 heures et qui est proposée aux autres priants. Donc c'est-à-dire, je laisse mon intention sur le site, les autres priants du réseau voient mon intention, prient pour moi, je reçois une notification à chaque fois qu'une personne a prié pour moi, et voilà, et je peux également évidemment prier pour les autres. Donc ça marche très très bien, à chaque fois qu'on laisse une intention, il y a toujours au moins une dizaine de prières, et c'est vrai que c'est assez réjouissant, à la fin on reçoit aussi un mail avec le prénom de toutes les personnes qui ont prié, donc on met une intention, et à la fin de 48 heures on reçoit un mail en disant il y a 15 personnes qui ont prié pour vous, avec leur prénom, tout ça. Donc bien sûr, et j'espère, le but n'est pas que les gens vivent leur foi et leur connexion aux autres uniquement par Hosanna, mais au contraire qu'ils y retournent. Et en fait, on a aussi beaucoup de témoignages de gens qui retrouvent une pratique La porte d'un site web, si j'ose dire, est plus facile à pousser que la porte d'une église. Donc effectivement, nous, on cherche en particulier à s'adresser à des personnes qui ont une certaine culture chrétienne, mais qui ne sont pas pratiquants. Je pense que ça peut être l'occasion de retrouver une pratique, parce que, en fait, on est dans une société où les gens cherchent du sens. Moi, ça me frappe beaucoup, notre génération en particulier. Moi, j'ai 30 ans, c'est cette tranche d'âge de... Je sais pas, de 20 à 35 ans, quoi. Il y a une génération assez particulière, je pense, qui cherche vraiment du sens. Puis, on a besoin aussi de retrouver une certaine intériorité. On est de plus en plus sollicité par plein de choses, et notamment, justement, avec les téléphones portables et Internet, où, en fait, on est tout le temps... Il suffit d'observer les gens dans le métro, quoi. On est tout le temps en train de soit de jouer sur un truc, soit d'écouter de la musique, soit de... On est très rarement dans le calme et le silence. Mais il se trouve que le téléphone portable est quand même le premier objet que les gens touchent le matin, qui les accompagne tout au long de la journée, etc. Donc c'est quand même une porte d'entrée qui est facile. Enfin, les gens, ils sont sur leur téléphone. Et donc si on arrive à remplacer peut-être un usage compulsif de Facebook par un usage plus réfléchi d'une application de prière, qui demande de toute façon un certain effort, hein, parce que c'est... Je vous assure que c'est plus facile de perdre du temps sur son mur Facebook que de perdre du temps à prier, parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter de prier, quoi. Une fois qu'on a retrouvé un peu cette place de l'intériorité et de la prière, le désir d'aller plus loin et de retourner à l'église, en fait, il est naturel, quoi.
Thomas, avec Hosanna, fédère une communauté en ligne et ramène potentiellement à la religion des catholiques qui avaient perdu leur pratique. Bien qu'ils n'y soient pas directement affiliés, on peut se demander quel lien Hosanna entretient avec l'église.
Alors déjà, dans l'église, on n'a pas besoin de demander la permission pour lancer quelque chose. Tous les chrétiens sont de fait envoyés en mission par leur baptême et par la confirmation. Donc l'église, il y a deux sens à l'église, hein. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens baptisés, donc ça, on est pleinement dans cette église. Et puis après, il y a l'église institutionnelle, la partie visible, on va dire, de l'église, hiérarchique. Et avec cette église-là, on a des relations, donc ils nous connaissent très bien, et ils sont bienveillants vis-à-vis de nous, mais ils ne nous aident pas particulièrement, et n'ont pas d'autorité directe sur nous, quoi. En fait, Hosanna, nous, évidemment, on s'inspire du fonctionnement d'autres réseaux sociaux, on s'inspire de pas mal de choses, et on reprend des idées à droite à gauche, mais on est quand même en train d'essayer de créer un usage nouveau, qui est celui de la prière avec un téléphone. Donc les gens, jusque-là, priaient soit sans aucun support, soit avec des supports papier, soit avec des audio ou avec des personnes qui prêchent devant eux, etc. Et là, on doit créer une expérience de prière sur en plus un support qui est quand même pas hyper propice à la prière, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui est le téléphone portable, qui est le lieu des distractions, le lieu de à la fois de son boulot et de son divertissement, enfin vraiment de distraction, quoi, par excellence. Et en fait, on se rend compte qu'on est toujours en train d'innover et toujours en train de réfléchir quelle est la pratique en dehors de la question du téléphone et la technologie et comment on peut allier les deux, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire transparaître avec tout sur Hosanna, c'est-à-dire que on s'appuie sur la foi millénaire de l'Église, mais le tout dans une interface moderne, aussi bien du point de vue graphique que technologique. Il est légitime de lancer des projets qui ont une vocation business. En tout cas, pour moi, déjà, il est nécessaire de lancer des projets qui ont pour but d'être rentables. Ça, c'est la base. Et ça, trop longtemps, surtout chez les cathos, on a fait des trucs à moitié avec que des bénévoles ou beaucoup d'amateurisme et pas assez de moyens pour faire des choses propres et bien. Donc, Hosanna, on se positionne très différemment. En fait, on est une asso, mais on fonctionne comme une start-up. On lève de l'argent. Si possible beaucoup d'argent pour financer des développeurs, des graphistes, des communicants, des budgets marketing si possible, etc. pour vraiment se développer et pouvoir offrir une solution du même niveau que les services qu'on est habitué à utiliser d'une façon générale qui demandent des moyens, quoi. Ça permet au moins de changer la perception que les gens peuvent avoir de l'Église, c'est-à-dire que dès que l'Église se met à utiliser les codes culturels de notre temps, eh bien en fait tous les gens qui sont touchés par le vecteur en question se disent d'un coup, ah bah tiens, les cathos, ils peuvent faire ça. Ils sont pas complètement coincés, ils peuvent faire des trucs aussi pro parce que ça peut être bien organisé, etc. Et rien que ça, les gens d'un coup se découvrent que, bah en fait, les cathos, c'est des gens comme tout le monde, quoi. Voilà, un truc tout con. Moi, souvent, quand je parle avec les gens, forcément, je suis assez vite amené à parler de Dieu, parce que souvent, une des premières questions de la vie, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà, j'écris un réseau social de prière, bon, tout ça, donc on parle de Dieu, tout ça. Et s'il se trouve que c'est une soirée où donc je parle de ça, donc les gens, on parle de foi, tout ça, et puis à un moment, il faut danser, il se trouve que j'ai fait un peu de hip-hop, donc je fais du hip-hop, et les gens hallucinent et se disent, mais putain, je sais danser du hip-hop, et genre, dans les gens, c'est incompatible d'être catho et de faire du hip-hop. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Bien sûr qu'on peut être catho et faire du hip-hop. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un produit, une idée, quelque chose qui sort comme ça, qui est à la fois chrétien et qui parle avec les codes d'aujourd'hui, et ben, les gens peuvent être intéressés.
Tradition et modernité, catho et hip-hop, prière et start-up. Hosanna comme une start-up, la religion comme innovation, se pourrait-il alors qu'il y ait un marché de la tech religieuse sur lequel se positionner? Quels liens ces start-up entretiennent-elles avec l'Église? Peuvent-elles réaliser des bénéfices et fonctionner comme une entreprise traditionnelle? Si Thomas Delanda essaie de développer une nouvelle pratique religieuse, Stanislas Bio, fondateur de l'application La Quête, essaie de digitaliser une pratique ancestrale. À la messe, lors de la quête, un panier passe entre les fidèles pour qu'ils y déposent le montant d'argent qu'ils souhaitent, qui ira au fonctionnement de la paroisse. Stanislas a développé une application pour que l'on puisse, d'un geste sur son smartphone, faire un virement à la paroisse dans laquelle on se trouve. Stanislas vivant à Nantes, nous nous sommes parlé par téléphone.
Grosso modo, nous, notre boîte Oba Digital, elle s'occupe dans les faits d'aider l'Église à se digitaliser sur les aspects des dons et des donations. Donc on aide vraiment l'institution et les différentes paroisses à trouver de nouveaux moyens de collecter des dons. Et là-dessus, on a deux innovations majeures. On a l'application La Quête, qui est un outil de collecte de dons sur téléphone portable. C'est une application sur laquelle un paroissien peut en quelques secondes faire un don à son église. Et puis l'appli contient un onglet actualité qui lui permet d'avoir les actus de sa paroisse, ça veut dire les lectures du dimanche, parfois c'est la feuille de chant, les paroisses donnent des changements d'horaire, etc. etc. Donc il y a vraiment un système d'actualité hyper simple, accessible pour le donateur et que l'église peut enrichir depuis un back-office.
D'accord, donc en fait vous êtes vraiment en lien avec l'église.
Exactement. Donc vraiment, l'enjeu c'est d'aider l'église à se digitaliser, mais plutôt sur l'aspect don que communication. Après, de fait, c'est aussi un outil de communication pour les paroissiens, mais ils s'en servent avant tout pour faire des dons.
Comment c'est venu cette idée de créer La Quête?
Écoute, c'est venu tout simplement du fait qu'on allait à la messe le dimanche, Romain, mon associé et moi, et que très régulièrement, on se regardait, on vidait nos poches au moment de la quête, ou on donnait la piécette qui nous restait, ou alors on donnait rien parce qu'on n'avait rien, et on se rendait compte que nos copains, c'était à peu près pareil pour tout le monde. Donc on s'est dit, puisqu'il y a un truc qu'on a tous dans notre poche à ce moment-là, c'est le portable, est-ce qu'on créerait pas un outil dans le portable qui permet de faire le... c'est pas un marché facile, parce que c'est pas parce qu'on est catho que l'église ouvre toutes ses portes en faisant confiance immédiatement. On doit prouver qu'on est professionnel, qu'on a une saine ambition, etc. Mais une fois qu'on a montré patte blanche, c'est hyper enthousiasmant de travailler pour ses convictions. Déjà, on parle peu de marché entre nous parce que c'est pas on le voit plus comme une conviction, si tu veux. On est tous les deux catholiques pratiquants et croyants, évidemment. Et on voulait plutôt aider l'église qu'en faire une source de revenus. De fait, il se trouve qu'en ayant de plus en plus d'idées, on a développé une entreprise qui a pour objectif d'être rentable, parce que j'ai des salariés à payer, mais c'est pas du tout une start-up qui a vocation à nous rendre richissimes. Ça n'a jamais été dans notre ambition. Notre ambition, c'est d'avoir quelque chose de rentable. On a des actionnaires qui sont contents de voir que ça tourne, mais personne n'est là pour devenir un multimillionnaire. Donc on est vraiment une start-up axée ESS, c'est-à-dire économie sociale et solidaire, dans la mesure où notre premier objectif n'est pas la rentabilité, la profitabilité à tout prix en tout cas. Il y a eu deux étapes dans le lancement. Il y a eu le lancement de l'application La Quête, qui était vraiment quelque chose qui était un ovni dans l'église. Et là, ça a donné lieu à deux réactions, et vraiment systématiques, ou enthousiastes, ou vraiment réfractaires. Et on le comprenait très bien, parce que c'est une révolution qui est pas simple. On introduit le portable au moment de la messe, à un moment de la messe qui d'autant est vraiment très sacré. Donc on a très bien compris qu'il y a des réticences. Maintenant, on a réussi, je pense, à convaincre que l'outil ne polluait pas la messe. Quand ils ont vu l'usage concret, je pense que ça a convaincu beaucoup de gens que le produit n'était pas mauvais, pas néfaste pour leur pratique religieuse. Donc je pense que ça se fait de plus en plus naturellement et facilement. Et pour être franc, on n'a jamais eu autant de demandes que depuis 4 mois. C'est-à-dire que là, on reçoit 3 à 4 mails par jour demandant des bornes ou l'application. Alors que jusqu'à il y a 6 mois, on n'avait pas un seul mail par jour dans la boîte aux lettres.
En d'autres termes, Stanislas comme Thomas ont également une mission éducative. S'ils veulent faire fonctionner leurs entreprises respectives, c'est à eux que revient la lourde tâche d'expliquer aux catholiques qu'il faut que l'Église évolue avec son temps et de leur donner le goût de nouvelles pratiques.
Il y a une vraie méthode pédagogique à mettre en œuvre et nous on a beaucoup fait avec les paroisses qui se lançaient. Quand une paroisse utilisait l'application La Quête, on lui envoyait tout un pack de communication. Ça allait autant de l'affiche et du tract jusqu'au discours que devait tenir le prêtre pour vraiment rassurer les fidèles. Et en fait, on a vraiment vite compris ce qui marchait dans les discours, tout simplement parce que les gens avaient besoin d'être rassurés sur l'usage de l'outil, sur le fait que ça ne remplaçait pas, mais que c'était un complément de La Quête, et que le but n'était pas de tout faire disparaître demain matin.
Et donc vous, avec tout ça, vous avancez en accord avec les prêtres, en accord avec les diocèses, ils ont une partie importante dans votre développement ?
Disons que c'est une... Alors on les prend pas comme des clients, mais ce sont nos clients, de fait. Donc on les prend plutôt pour des partenaires, et donc... c'est eux qui nous font remonter tous les besoins concrets qu'ils ont. Donc on ne se base que sur leurs expériences, sur leurs ressentis, sur leurs demandes, sur leurs critiques pour faire évoluer nos outils. Donc on a vraiment une méthode hyper agile dans le développement de la boîte. Les bornes de dons, il y a 6 mois, elles n'avaient absolument rien à voir avec ce à quoi elles ressemblent maintenant. On a créé depuis des paniers de quêtes connectés parce que c'était une demande récurrente. Donc dans certaines églises maintenant, vous avez un panier de quêtes qui passe dans les rangs des fidèles, qui ou permet de collecter du cash parce qu'il y a un vrai tronc qui permet de mettre des espèces, ou alors de payer par carte bleue sans contact. Et ça, au début, nous, on pensait pas le faire. On voulait faire que des bornes fixes en fond d'église. On a eu tellement de demandes du terrain qu'on a lancé un produit. Et quand on voit que les ressources de la quête augmentent de 50% dans les églises qui le testent, on a bien compris que c'était très, très efficace, quoi.
Et est-ce que vous pouvez gagner de l'argent, vous, avec la quête?
Alors, l'appli La Quête ne nous rapporte absolument rien. On aurait pu trouver un business model, mais ça aurait été très, très peu rentable de toute façon. Donc, on a préféré en faire don à l'église. Donc, ça ne nous rapporte pas un centime. En revanche, c'est nos autres produits qui nous font vivre. Par exemple, on crée des bornes de dons connectées. Alors, ça, c'est beaucoup plus innovant encore. Si tu vas dans une église à Paris, tu vas te retrouver avec des bornes de dons dans une 50aine de paroisses maintenant, je crois. Et en fait, tu peux payer le denier, donc le denier qui est vraiment la première ressource de l'église, qui permet de payer les prêtres. Tu choisis le montant, tu poses ta carte bleue, c'est payé. Et là, pour le coup, on a un vrai business model rentable, qui est efficace, qui marche, qui nous permet de faire vivre nos 12 salariés. Donc, on a évidemment, heureusement, de quoi vivre, parce que sinon, on n'aurait pas d'entreprise. Pour ce qui est des autres initiatives, on en voit plein, plein, plein naître. On a même créé Pitch My Church, dont tu as dû entendre parler, qui est un événement annuel de présentation des initiatives innovantes pour l'Église. Et l'enjeu, là, c'était vraiment de trouver des nouvelles initiatives. Donc, il y en a qui ont créé la possibilité de réserver une retraite spirituelle en ligne. Il y en a qui ont créé la possibilité de commander un cierge en ligne et de le faire allumer dans une paroisse à distance pour faire une forme de prière. Il y a des coachings de prière, des coachs de prière qui se sont lancés aussi. Donc, il y a plein d'initiatives pour aider les chrétiens à ou se simplifier la vie dans leur pratique ou même redécouvrir des pratiques qu'ils ont un peu perdues. Typiquement, nous, on aimerait lancer au sein de l'application La Quête un module pour faire une offrande de messe. Demain, vous avez votre grand-mère qui est malade. Ce serait top de pouvoir lui dédier une messe qui sera célébrée par un curé. Ça, c'est un coût qui est fixé par l'église, qui est connu, hein, c'est 17 euros. Et personne ne connaît ça chez les jeunes. Donc, on aimerait simplement mettre ce genre d'outils dans nos outils pour les remettre au goût du jour parce qu'on pense que c'est des belles choses.
Comme le dit Stanislas, les initiatives se divisent en deux objectifs. Simplifier la pratique religieuse des catholiques ou faire redécouvrir des pratiques oubliées. Stanislas et Thomas se rejoignent sur le fait qu'ils sont laïcs, comprendre ne sont pas cléricaux et montent pourtant des initiatives qui, à terme, servent l'Église. Finalement, toute cette digitalisation a énormément d'avantages pour l'Église catholique. Tout d'abord, elle incite des jeunes overbookés comme Nathalie et Charlotte à exercer leur religion partout, en tout temps, et de ce fait de l'intégrer profondément à leur mode de vie. Comme le dit Stanislas, il est peu probable que ces applications remplacent complètement la pratique traditionnelle de la religion, mais elles peuvent déjà ramener des brebis égarées. Plus de souplesse dans leur pratique pour ceux qui le font déjà, plus d'attrait pour ceux qui, comme la cible d'Ozana, ont une éducation catholique mais ont depuis longtemps perdu la pratique.
Les cathos connectés, c'est un reportage de Chloé Vibo réalisé par Vincent Hiver pour Programme B, qui est, comme vous le savez, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.